Nous allons étudier un petit peu quelque chose que nous connaissons déjà, mais dont nous avons besoin de rappeler. Il faut continuellement nous rappeler les choses. C'est comme dans l'éducation avec nos enfants, il faut continuellement rappeler les choses pour que ça rentre. Ceux qui ont éduqué des enfants le savent. Combien de fois n'avez-vous pas dit « range ta chambre, brosse tes dents, débarrasse la table, que sais-je encore ?» Combien de fois ne l'avez-vous pas dit et que vous l'avez répété ? La langue est un membre extraordinaire, doté de multiples muscles très forts pour aider à mâcher la nourriture et à mastiquer, à déglutir, etc., et à goûter les choses. C'est un concentré de technologie, notre langue. Mais la Bible nous parle de la langue. Il y a quantité de versets sur les paroles et la langue et le langage, mais qui ne parle pas de cet aspect, je dirais, physiologique ou médical, si on veut, mais ça parle de la langue comme moyen d'expression, moyen de communication. Alors, on peut communiquer autrement que par la langue. Il y a beaucoup de façons de communiquer et de se faire comprendre, mais la langue est un moyen particulier. D'ailleurs, il y a beaucoup de dictons sur la langue. Il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Quelqu'un a dit « la langue du muet vaut mieux que la langue du menteur ». Un proverbe éthiopien dit « le trop-plein du cœur glisse sur la langue ». La Bible confirme en disant « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Mais nous le savons tous, la langue est capable du meilleur comme du pire. Elle est capable de produire des choses extraordinaires. Elle est capable de démolir, de détruire. Car il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie, c'est le proverbe 18 qui nous le dit. La mort et la vie, ce sont des termes parmi les plus forts qui existent pour définir le pouvoir que Dieu nous a donné au travers de ce petit membre que nous avons tous. Mes amis, ce soir, mon but, c'est que tout ce qui a dévié du côté de la mort puisse être ramené du côté de la vie. Amen. Que tout ce qui a dérapé, a glissé du côté du découragement, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est destructeur, de tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, puisse être ramené dans la voie de la vérité, du bonheur et de la bénédiction. Nous savons que la langue peut élever ou rabaisser quelqu'un, peut bénir ou maudire, peut encourager et donner une journée ensoleillée à quelqu'un parce que vous avez reçu un mot d'encouragement. Vous avez quitté la maison avec un mot gentil de la part de votre conjoint, de vos enfants ou de vos parents, que sais-je. Quelqu'un vous a encouragé. Est-ce que quelqu'un a reçu un mot d'encouragement cette semaine sur son téléphone? Ah ben quand même, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Mais on a aussi fait l'expérience que nous avons tous eu à un moment donné, même bien intentionnés, des mots qui ont dérapé, quelque chose qu'on a regretté et qu'on voudrait tellement rattraper, mais c'est trop tard. On n'arrive plus à rattraper. Un pasteur racontait l'histoire suivante et il disait qu'une personne est venue vers lui pour lui demander pardon parce qu'elle l'avait pendant de longues semaines, voire de longs mois, critiqué. Et puis, se sentant tellement mal à l'aise que cette personne est venue demander pardon à Dieu, mais aussi à la personne concernée, pour toutes les paroles de critique qu'elle avait répandues. Alors, le pasteur a pris à écouter, il n'a rien dit. Il a disparu à un certain moment et il est revenu avec un coussin sous le bras et un couteau. Et il a pris le couteau, il l'a enfoncé dans le coussin, il a sectionné le coussin, et il a répandu les plumes partout, pas à l'intérieur, parce qu'après il fallait balayer, mais à l'extérieur. Il a dit, merci pour votre excuse, votre demande de pardon, mais maintenant je vous demande d'aller ramasser toutes les plumes. Ce n'était hélas plus possible. Notre langue est capable de produire la mort, quelque chose qui tue la vie, ou quelque chose qui construit la vie. La langue est capable, il y a des gens qui sont en prison à cause de leur langue. Mes amis, il y a des guerres qui ont été déclenchées à cause de la langue. La langue a un pouvoir incroyable et peut laisser des traces. C'est pour ça qu'il y a certaines paroles qui sont à prendre en considération. Par exemple, Jésus a dit que les hommes rendront compte de toute parole vaine. Waouh, ils auront prononcé. Alors, il vaut mieux se taire quelquefois et faire attention. En tout cas, demander pardon parce que le Seigneur pardonne les péchés. Une personne est venue me trouver et c'était une femme qui est mariée qui commençait à s'effondrer en larmes et de dire « Il faut vraiment prier pour mon mari. » « Ah bon ? Mais je le connais, votre mari, il a l'air si gentil. » Mais à la maison, c'est un homme tout à fait différent qu'à l'église. C'est un homme qui était connu pour être un homme gentil par tout le monde. Mais à la maison, c'est un homme différent. Et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu cela. Des gens qui ont deux langages, un langage privé, un langage public. Qui ont deux comportements, un comportement privé, un comportement public. Ce n'est pas vivre dans la vérité ni dans la lumière, cela. Combien de personnes ont un langage sanctifié dans l'Église et un langage anti-sanctification à l'extérieur, complètement différent. Mais tôt ou tard, mes amis, notre langue va nous trahir. Tôt ou tard, notre langue va nous trahir, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez Pierre, qui avait dit, « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te trahirai jamais, si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. » Et puis viendra le moment où dans la cour de Caïphe, il sera seul, il sera autour du feu, il sera sous cette pression, il sera sous tension, et à un moment donné, il déclarera plusieurs fois de ne pas connaître le Seigneur. Et la Bible dit que c'est sa langue qui l'a trahi parce qu'on l'a fait, on l'a reconnu avec son accent galiléen. C'est sa langue qui l'a trahi. Tôt ou tard, viendront des circonstances où ce qui est au fond du cœur va apparaître au grand jour. Mais j'aime tellement ce texte parce que Jésus ne lui a pas dit « Pierre, qu'est-ce que tu fais ? Tu me trahis alors que j'ai tellement besoin de ta présence, j'ai tellement besoin d'être encouragé, soutenu au moins par une personne parce que tous l'avaient abandonné. » Mais Jésus ne dit rien. L'évangile de Luc dit juste que le regard de Jésus va croiser le regard de Pierre et ça suffira. Il ira pleurer et Jésus, quelques jours plus tard, va le relever. Comme vous le savez, dans Jean chapitre 21, Jésus va relever son disciple qui avait craqué sous la pression, qui avait mal parlé, qui avait renié son Seigneur. Mais il a été relevé. Le Seigneur veut vous relever si vous avez mal parlé, si vous avez eu votre langue qui vous a causé un grand problème. Et si elle vous cause un problème aujourd'hui, Jésus veut vous secourir. Il veut que la vie soit dans votre langue et que vous transmettez la vie et non pas le contraire. Amen. Alors maintenant, on va tourner dans l'épître de Jacques, qui est celui qui parle très clairement et je dirais même un peu cache de la langue. Jacques chapitre 3, il nous est dit au verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. » Qui est parfait parmi nous? Pas de main se lève. C'est bien. Nous bronchons tous, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous à la même enseigne. Nous bronchons tous dans ce domaine-là. Il continue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, c'est pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons ainsi tout leur corps. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue est un feu. C'est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres et elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Et puis, au verset 8, il est dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et j'arrête là. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Ça, c'est Jacques, qui parle d'une manière très juste, très éclairée. Et en même temps, ça fait un peu trembler tout ce que la langue est capable de faire. Il parle aussi par expérience, et ça fait 2000 ans qu'il en a parlé. Et je dirais aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'être humain est fait de la même pâte. Il doit se battre avec les mêmes problèmes, n'est-ce pas vrai ? Il ne faut pas qu'il en soit. Cela veut dire que nous pouvons changer, nous pouvons être transformés. Comment ? Par la puissance du Saint-Esprit, par la conversion. Il faut un cœur nouveau qui parle d'une manière nouvelle. Vous ne pouvez pas remodeler un homme, une personne, et la mettre sous discipline pour qu'elle parle correctement. Ce sera un langage qui ne correspondra pas avec son cœur. Il faut un nouveau cœur pour un nouveau langage. Il faut un nouvel esprit pour une nouvelle façon de parler. Il faut que cette source soit nettoyée. Il faut que le puits dans lequel trouve la source des paroles, il faut que ce puits soit assaini correctement. Il faut que quelque chose de divin se passe. Mon ami, si tu as des problèmes avec la langue, et nous en avons tous, puisque Jacques le dit, mais si nous sommes sur une base régulière, en train de nous achoper sur des mots violents, des mots de colère, des mots de jugement, des mots de blagues mal placées, que sais-je, on peut ajouter beaucoup de choses, alors il faut traiter le problème, parce que le Seigneur est sévère avec ça. Il dit encore une fois, il y a des choses que tu minimises, mais qui produisent quand même aucun résultat et la mort, qui ne produisent en tout cas pas la vie. Dieu voudrait que notre langue produise la vie, quelque chose de puissant, quelque chose qui va se multiplier, quelque chose qui va être extraordinaire. Moi, je me souviens de ce mercredi, de mon jour de congé, il y a, je pense, une année ou deux, et un découragement est tombé sur moi à cause d'une situation précise. Et je ne pouvais en parler à personne. J'en ai parlé à personne, ni même à ma femme. Et j'étais là, et je tournais en rond, et je n'arrivais pas à me libérer de ce fardeau, et mon jour de congé commençait à être gâché. J'étais triste, et j'arrivais à rien faire du tout de ma journée. C'est à ce moment-là qu'est arrivé un petit message sur mon téléphone. Par quelqu'un qui m'écrit jamais. Mais cette parole, c'était juste un verset. Cette parole a produit juste une puissance de délivrance de ce ciel qui m'écrasait, cette tristesse qui me pesait. J'ai été libéré parce que je savais que Dieu avait pensé à moi dans ma détresse, que j'ai pu partager avec personne. Une parole inspirée. Frères et sœurs, c'est ça la vie. Soyez des vecteurs de paroles inspirées. Je ne parle pas de langage religieux, dire « mon cher frère, que Dieu te bénisse ». Ça, c'est bien, parfois c'est bien, mais parfois c'est nul. Parfois, c'est juste à côté. Mais une parole inspirée, juste une... Laissez-vous inspirer, laissez-vous inspirer. Le Saint-Esprit prend plaisir à inspirer ses enfants pour que nos paroles produisent la vie, la vie, la vie, partout. Produisons la vie par nos paroles. Alors, j'aimerais voir avec vous ces trois images de l'apôtre Jacques. D'abord, il dit que la langue, c'est comme le mors dans la bouche d'un cheval. Il dit que si tu as le mors dans la bouche du cheval, vous maîtrisez la puissance du cheval. Vous l'orientez comme vous voulez. Cela veut dire que notre langue doit être sous contrôle. La langue doit être sous contrôle. Alors, c'est difficile. Même sous pression, elle doit rester sous contrôle. Ça, c'est la grandeur du caractère. Lorsque, dans une situation complexe, lorsque on essaye de s'en sortir, il faut rester sous contrôle. Rester sous contrôle. Des personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser, c'est des personnes qui ne seront pas embauchées dans certains jobs, dans certains travaux, dans certains emplois, parce qu'ils ont besoin que leur langue reste sous contrôle. Nos enfants nous ont déjà dit « Ah, j'ai envie de tout envoyer balader. J'ai envie d'exploser. » Ah oui, il faut apprendre à se contrôler. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée, dit Ésaïe 50, verset 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 4 nous dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il faut savoir posséder son corps sous contrôle. Nous devons rester en contrôle du membre le plus compliqué à gérer, qui est la langue. Cela veut dire que, je l'ai dit, c'est possible par le Saint-Esprit, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit peut là où tu ne peux pas. Il faut que tu t'ouvres au Saint-Esprit, que tu reçoives le Saint-Esprit, que tu dises « Seigneur, je veux pas seulement la louange, je veux pas seulement être rempli et sentir la présence de l'Esprit, je veux aussi la maîtrise de moi. » Le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Car parfois, il faut savoir se taire au lieu de parler. C'est difficile. Parfois, quand on est attaqué, il faut parfois répliquer, mais parfois il faut supporter, n'est-ce pas vrai? Il ne faut rien dire. Moi, je peux vous dire, je ne veux pas entrer en détail, mais il y a eu des périodes où j'étais sous pression, et je dis avec 15 ans de recul, heureusement que je n'ai pas réagi d'une manière charnelle. Heureusement que je n'ai pas boxé dans tous les sens pour me défendre. Parce que j'ai vu que Dieu me défendait en son temps. En son temps. Et j'aurais bien pu faire plus de dégâts si j'avais commencé à réagir pour faire taire ceci, faire taire celui-là, faire taire, etc. J'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Mais j'ai laissé Dieu faire. Mais supporter est une école difficile. Je veux dire supporter sans devenir amer, rancunier, blessé tout le temps. On peut supporter parce que ça fait partie d'un mot important dans le livre. Cherchez un peu dans votre concordance le mot supporter, le nombre de fois que vous le trouverez. Vous serez étonné de voir combien de fois Paul parle de cela. Je veillerai sur mes voies, dit encore le psaume 39, verset 2. De peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche. Je mettrai le mort dans ma bouche, je mettrai un frein à ma bouche. Encore le psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Oui, la langue, c'est un problème universel. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Il nous faut discipliner notre langue comme l'image du cheval qui doit être bridé. Notre langue doit être une bénédiction. Regardez encore ce qui est dans le proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Il y a quelque chose de nourrissant, quelque chose de bienfaisant, quelque chose de positif, quelque chose qui m'amène à bénéfice lorsque le fruit de la bouche est contrôlé correctement. Le deuxième exemple, la deuxième image de l'apôtre Jacques, c'est l'image de ce fameux navire. Il nous est dit que les navires sont grands, puissants, poussés par des vents impétueux, mais dirigés par un petit gouvernail. Un petit gouvernail qui est l'image de la langue. Ça veut dire que tout voyage avec un grand bateau orienté par un petit gouvernail doit avoir une direction. Notre langue, si elle exprime quelque chose de positif ou de négatif, cela oriente toute votre vie, toute votre vie. Une fille était devenue anorexique. Une jeune fille était devenue anorexique et vous savez que le problème de l'anorexie est très complexe. Il y a toujours plusieurs causes. Mais la cause principale de l'histoire que je vous évoque ici, c'était que cette jeune fille, dans les leçons de gymnastique à l'école, eh bien, un prof lui avait dit: Hé, là, il faut que tu te bouges, toi, la grosse. Et cette parole, par une personne d'autorité, a eu tellement un impact qu'elle a arrêté de manger. Elle a arrêté de manger. Mais heureusement qu'il y a eu d'autres personnes qui ont parlé d'une manière différente. Et elle en est sortie. C'est une histoire authentique. Nos paroles ont un effet de mort ou de vie. Cet enfant, sa vie a été orientée d'une manière négative. Comme le bateau sera orienté par le gouvernail dans une direction ou dans une autre. La langue dirige toute notre vie. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Toute notre vie est orientée par la langue. Une autre histoire. C'est encore l'histoire d'une jeune, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. En tout cas, l'enfant était encore assez petit, 7-8 ans, et il chantait à la chorale. Et histoire un peu similaire, c'est le prof de chant ou le directeur de chorale avait dit, écoute, tu chantes faux, tu chantes faux. Et pour finir, l'enfant chantait toujours faux. Il a cru qu'il chantait faux, mais devenu plus grand, il se mit à fréquenter une église. Devenu adulte, une autre personne d'autorité lui dit, c'est Dieu qui a fait ta voix, par conséquent, elle est juste. Et avec l'exercice, mais aussi avec la foi qu'elle avait une voix juste, et avec la répétition et la foi dans quelque chose de positif, il y a eu une réorientation. Elle était partie pour croire qu'elle chantait toujours faux, et ça sortait toujours faux. Et voilà, quelqu'un lui dit, tu peux chanter juste, tu es capable. Elle a commencé à chanter juste, et même très bien. La mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. L'orientation de vie peut être déterminée. Mes amis, il y a des gens, je connais des personnes, qui sont négatives, qui ont toujours un truc négatif à dire, négatif. Vous savez que, pour finir, je pense à une ou deux personnes, elles restent seules dans leur coin parce que plus personne ne veut être en contact avec eux, parce que c'est une ambiance négative. Ce n'est pas intéressant d'être avec des gens qui sont toujours négatifs. Leur vie est orientée. C'est comme une ornière qui trace leur vie d'une manière négative. Tout le temps, ils sont négatifs en parlant, mais ils sont négatifs dans beaucoup de domaines. Mes amis, notre langue oriente notre vie. Soyons positifs. Bénissons. Orientons, disciplinons notre langue pour des bonnes choses. Commençons dès aujourd'hui, dès aujourd'hui. Car un langage d'incrédulité empêche le navire de découvrir les horizons qui ont été prévus par Dieu. Par contre, un langage de foi et de confiance, ça oriente notre bateau vers un avenir fait d'espérance. Comme un langage de vérité, nous orientons tôt ou tard vers des eaux propres, tandis qu'un langage de mensonge et de tricherie, eh bien, nous orientera vers des eaux troubles. Ne laissons pas nos bateaux finir dans des eaux troubles. Il est dit, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'image de ce navire, c'est aussi très important que notre langue soit correctement influencée. Si vous entendez toujours des choses négatives, vous allez peut-être dire des choses négatives, mais il faudra vraiment lutter pour être le contraire. Alors j'ai à vous dire ce soir, laissons notre langue être influencée par la parole de Dieu. Si tu ne sais plus que dire, dis ce que Dieu dit. Si tu ne sais plus où tu en es, dis et lis et prononce ce que Dieu dit à ton sujet. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu crois dans ton cœur, il faut le proclamer de ta bouche pour être sauvé. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant, c'est en proclamant de la bouche et qu'en est croyant du cœur que nous serons justifiés. Il faut que le cœur et la bouche soient en harmonie. Laisse ton cœur être impacté, si on peut utiliser ce mot, avoir une influence de la parole de Dieu. Soyons en contact avec la parole de Dieu. Ouvrons les psaumes pour les prier. Ce sont des prières. Prononçons la parole de Dieu. Et elle est puissante. Elle proclamera, elle déclenchera quelque chose de puissant. Alléluia. Plaçons la vérité de Dieu dans notre bouche. La troisième image, le cheval nous parle du contrôle de la langue. Le navire nous parle de l'influence et de l'orientation de vie que la langue peut donner. Et la troisième image, c'est l'image du feu. Et l'apôtre Jacques va dire des choses assez incroyables par rapport à ce feu. Il dit que c'est le monde de l'injustice, la souillure qui embrase, qui est embrasée par la géhenne. C'est fort. Cela nous parle d'une langue qui doit être sanctifiée. Sanctifiée. La capacité de destruction de la langue est choquante. Ce feu qui allume un incendie complet, enflammé par la géhenne, le monde de l'iniquité, etc. L'apôtre Jacques va dire au verset 11, « De la même bouche ne peuvent pas sortir et la bénédiction et la malédiction. Il faut que les sources soient assainies, il faut que notre vie soit sanctifiée. » C'est le message pour ce soir. Acceptons la sanctification de notre bouche, de notre langue, de notre cœur. Jésus va dire dans Matthieu 15, 18, « C'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Éphésiens 4, 29. « Ma source doit être nettoyée, purifiée. » Je pense à des personnes qui sont capables de dire les choses justes, mais la source n'est pas nettoyée pour autant. Ce n'est pas parce que vous dites des choses justes que vous êtes forcément sanctifié. Vous pouvez dire des choses justes, mais d'une manière cassante, d'une manière dure. Il y a des gens qui parlent, qui disent des choses justes, mais il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. Il faut qu'il y ait sanctification. Il faut que le divin se mêle de l'humain. Il faut que le Saint-Esprit se mêle de la transformation. Lui seul peut changer ça. Si tu as l'impression que tu peux dire que des mots durs, ils sont justes, mais durs, il faut ce soir venir à la croix. Et ce sera mon dernier point. Vous allez voir où je vais vous amener ce soir. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur la critique, la médisance, la calomnie, le jugement, le mensonge, les paroles qui attristent le Saint-Esprit. Déjà, l'Ancien Testament nous dit dans Lévitique, chapitre 19, verset 16, « Tu ne répandras pas de calomnie parmi le peuple. » Tu ne répandras pas de calomnie. La calomnie, c'est faire courir les bruits, toucher à la réputation de quelqu'un, mal parler de quelqu'un. Ça, c'est la calomnie. Éphésiens 4, 31 nous dit, « Cela doit disparaître, disparaître. » Colossiens 3, 8 nous dit qu'il faut renoncer à toutes ces choses. La médisance, c'est, le mot grec, c'est « katalalia ». L'alia veut dire « parler ». « Kata », c'est de haut en bas. C'est-à-dire vous parlez de haut en bas sur quelqu'un. Vous dénigrez quelqu'un, vous chargez quelqu'un de paroles négatives. La médisance, c'est diffamer, dire du mal. Un autre mot traduit par la médisance, c'est le mot « diabolos ». Vous connaissez ça ?« Diabolos », pas besoin de traduire. Hein, l'accusateur, l'accusateur. Le cœur doit être changé si nous voulons que le langage change. Il faut que le cœur soit changé. Il faut que le cœur soit nouveau, l'esprit renouvelé pour parler de manière différente. Et mon dernier point, et je termine par là, c'est la langue doit être contrôlée, la langue doit être orientée correctement, la langue doit être sanctifiée. Mon dernier point, c'est la langue doit être purifiée. Dans Ésaïe 6, nous avons le texte qui sera ma conclusion. Ésaïe 6, le prophète est dans le temple, il est en train de chercher la face de Dieu, il prie et tout à coup il y a une révélation de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le Dieu très haut lui apparaît. Et il est tellement touché qu'il a cette vision de Dieu, mais il a aussi une vision de lui-même. Il va dire, vous lirez ça chez vous, Ésaïe 6, « Malheur à moi, car mes lèvres sont impures et j'ai vu le Seigneur. » Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais d'abord, il dit, mes lèvres sont impures. Attendez, il est quand même prophète, non? C'est-à-dire que le moyen que Dieu utilise au mieux chez cet homme, Ésaïe, c'est la parole, c'est la langue. C'est là qu'il est en bénédiction, c'est là qu'il est inspiré. Et il reçoit cette révélation, Seigneur, j'ai besoin que l'instrument que tu m'as confié, là où tu places ton onction, là où tu m'utilises, j'ai besoin que ça soit encore purifié. Ça, c'est notre message pour ce soir. Notre langue a besoin d'être purifiée. Et là, le texte nous dit que l'ange qui est là va prendre une braise sur l'autel et va toucher ses lèvres. Et il va dire, maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée, ta faute est enlevée. Qu'est-ce que cet autel, qu'est-ce que cette braise pour nous ce soir? C'est la croix. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus purifie. Notre langue a besoin de purification, encore une fois, qui vient du ciel. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est le ciel qui nous change. Il faut lui laisser l'espace. Il faut venir au pied de cette croix où il y a toujours une place pour toi afin que tu reçoives dans la confession et la repentance la purification de ta langue. Afin que la mort soit stoppée, mais que la vie soit encouragée. C'est là l'endroit du rendez-vous ce soir. Seigneur, garde nos cœurs, mets un frein à ma bouche, oriente ma vie, sanctifie ma vie, que je sois inspiré pour devenir bénédiction par ma langue. Bénédiction.